Bon samedi matin à l'écoute d'Europe 1. L'information de ce samedi 25 mai, Léanique Monnier et Bernard Poiret.
Bonjour Lénaïque.
Bonjour Bernard, bonjour à tous.
À la une de votre journal, le difficile réveil des Lyonnais ce matin.
Choqués après l'explosion d'un colis piégé qui a fait 13 blessés dans le centre-ville, nous serons sur place dans un instant. Après cette explosion, le suspect s'est volatilisé, un avis de recherche a été lancé. Nous ferons le point sur l'enquête dans ce journal et puis le scrutin européen, c'est demain. Les villes ont du mal à trouver des volontaires pour tenir les bureaux de vote. Nous irons dans les Hauts-de-France. Enfin, à qui la Palme d'Or ce soir à Cannes? Mathieu Charrier s'est lancé dans les pronostics.
Europe 1. À Lyon, on ignore toujours qui est à l'origine de l'explosion au colis piégé.
Ce que l'on sait, c'est que vers 17h30 hier, en pleine rue passante, un homme a déposé un colis devant la devanture d'une boulangerie dans la rue Victor Hugo, rue située dans le plein centre-ville de Lyon. Où vous vous trouvez ce matin, Jean-Gabriel Bourgeois? À quoi ressemble le quartier au lendemain du drame?
Eh bien, ce matin, la rue Victor Hugo est de nouveau ouverte. Le périmètre de sécurité a été levé. Il y a environ une heure, les services de la ville sont venus nettoyer les débris de verre devant la boulangerie. Et les Lyonnais qui passent dans cette rue piétonne du centre-ville, à quelques mètres de la place Bellecour, commencent à prendre conscience de ce qu'il s'est passé. Écoutez Laurent, qui habite dans le quartier.
On est tous inquiets, évidemment, à Lyon. C'est inquiétant. C'est inquiétant. On ne pouvait vraiment pas s'y attendre. C'est triste, en plus. C'est vraiment triste pour cette petite de 8 ans. Ça fait du mal à tout le monde, on a tous des enfants. On va le retrouver.
On va le retrouver, il s'agit du suspect, toujours activement recherché. Toutes les personnes que j'ai croisées ont une pensée ce matin pour les 13 passants blessés par l'explosion. Les secours sont arrivés très rapidement, sans vraiment d'agitation, comme l'explique Paul qui travaille dans un hôtel à côté.
C'était pas vraiment de la panique, c'était plus de la surprise que de la peur. Ça aurait pu être une explosion de gaz, il y a des travaux dans la rue, ça aurait pu être ça aussi.
Une rue en travaux déjà fortement impactée par la manifestation de Gilets jaunes chaque samedi et dont les commerces commencent à ouvrir leurs portes.
Merci Jean-Gabriel Bourgeois en direct de la rue Victor Hugo à Lyon ce matin pour Europe 1.
En attendant d'en savoir plus sur le profil et sur les motivations éventuelles du suspect, la section antiterroriste du parquet de Paris a été saisie.
Pour mettre la main sur cet homme repéré par des caméras de vidéosurveillance et qui depuis s'est évaporé dans la nature, Salomé Legrand, c'est désormais la priorité, le retrouver.
Et oui, cet homme d'une trentaine d'années dont les enquêteurs remontent le parcours et recherchent toute trace sur les centaines de caméras de vidéosurveillance de la ville notamment. La police a diffusé une image de ce suspect. Il a le visage dissimulé par une sorte de cagoule sombre et de grosses lunettes de soleil. Il porte un haut noir et un bermuda clair et pousse un vélo par le guidon. D'après nos informations, il est arrivé par le quartier de la Guillotière situé à 500 mètres de la boulangerie devant laquelle il a déposé ce carton piégé qui n'a explosé que quelques instants plus tard, alors qu'il était déjà reparti. La bombe est de faible intensité, elle n'a endommagé que la vitrine réfrigérée de la boulangerie et fait 13 blessés légers, mais elle contenait des vis, un mode opératoire qui interroge les enquêteurs qui restaient cette nuit très prudents sur les potentielles motivations du suspect. Attentat islamiste, acte perpétré par l'ultra-droite, l'ultra-gauche, voire un ultra-jaune à la veille des élections européennes, ou même action d'un déséquilibré. Les autorités ont parlé tour à tour de violence ou d'attaque et la ministre de la Justice a dit hier qu'il était trop tôt pour parler d'attentat. Pour l'instant, la substance explosive n'a pas encore été déterminée.
Merci Salomé Legrand pour ces précisions pour Europe 1. J'ajoute que Gérard Collomb, le maire de Lyon que vous avez entendu ce matin, est attendu sur place aux alentours de 9h de retour d'un voyage au Japon.
Demain, c'est jour de vote dans presque tous les pays d'Europe. De nombreux Européens sont appelés aux urnes.
La campagne officielle a pris fin à minuit et les électeurs français demain auront le choix entre 34 listes. Ça fait beaucoup. Devant les bureaux de vote, vous avez constaté une enfilade de panneaux. En revanche, les volontaires ne se bousculent pas au portillon pour tenir les bureaux et dépouiller. Beaucoup de villes peinent à recruter des assesseurs pour un scrutin qui risque d'être boudé par les électeurs. Reportage en Hauts-de-France, Lionel Gougelot.
Pour encadrer le vote de ces 4000 électeurs, Jean-Claude Dissot, le maire d'Aire-sur-la-Lys, avait besoin de 70 volontaires dans les 7 bureaux de vote de sa commune. Alors depuis des semaines, il bat le rappel des élus, des responsables associatifs et pour mobiliser tout ce petit monde, un jour de fête des maires, il a fallu batailler ferme.
Bien sûr, notre conseil municipal, mais aussi à beaucoup de bénévoles d'Aire-sur-la-Lys qui vont jouer le jeu. Mais je pourrais dire que les coups de téléphone, c'est tous les jours. Tous les jours, c'est 3-4 personnes qui nous disent « je peux pas venir, j'ai une obligation, ma femme me dit qu'il faut quand même qu'on aille voir sa mère » et ainsi de suite. Voilà. Bon, donc pour trouver d'abord nos assesseurs, nos présidents de bureau et nos scrutateurs, ça a été vraiment un parcours très difficile.
Des bureaux de vote qui auront tous, sauf accident, leurs présidents, leurs assesseurs, mais souvent en effectif minimum, reconnaît Nicolas Lebas, le président des maires du Nord.
Ce sera moins confortable que d'habitude parce que nous aimons bien avoir un petit peu plus de présidents, un petit peu plus d'assesseurs pour organiser aussi des remplacements, permettre à chacun d'aller faire une pause dans la journée. Là, ça risque d'être des journées soutenues et continues. Et pour quelques-uns d'entre nous, ils ne verront pas le soleil de ce beau dimanche.
Journée continue dans les bureaux de vote, mais pas forcément de cadence infernale. Du fait de l'abstention annoncée, on risque en effet de ne pas se bousculer devant les urnes. Lille, Lionel Gougelot, Europe 1.
Et si l'Hexagone vote demain, les Antilles et la Polynésie française, elles, sont appelées aux urnes dès aujourd'hui. Même chose en Slovaquie, en Lettonie et à Malte. En Irlande, ça a déjà commencé. Selon des sondages sortis des urnes, c'est le parti centriste qui est en tête après une campagne dominée par le Brexit. Brexit qui a finalement eu raison de Theresa May. La première ministre britannique partira le 7 juin prochain. Elle a démissionné.
Et bien sûr, le départ de Theresa May du pouvoir au Royaume-Uni, ça alimentera la réflexion de Catherine Ney tout à l'heure à 8h35 dans sa rubrique et dans son édito politique. Dans un instant, les urgentistes hospitaliers qui ne décolèrent pas ici en France. La grève prend de l'ampleur.
Europe 1, il est 8h06. Suite de l'actu sur Europe 1, Léna avec Mounier, Bernard Poiret.
La grogne ne faiblit pas du tout chez les urgentistes. Au contraire.
Elle touche 60 sites partout en France. Violence verbale, physique, manque de moyens et de personnel, ils sont à bout. Dans le service des urgences de l'hôpital Saint-Antoine à Paris, il y a 88% de soignants en grève. Reportage de Pauline Jacquot.
Dans la salle d'attente des urgences, il y a depuis un mois une caméra, un écran de contrôle et un vigile censé protéger le personnel contre les agressions. C'est très loin d'avoir réglé le problème. Selon Candice, aide-soignante, au dos de sa blouse, les lettres en grève sont toujours inscrites au marqueur noir.
L'agressivité monte très rapidement. Hein. Ça va de l'œil au beurre noir, à la déviation de la mâchoire, à la griffure, à l'insulte. Quand est-ce que le médecin va se ramener parce que j'ai autre chose à faire que de l'attendre? Dépêche-toi, tu sais pas nous aider, tu sers à rien. Et c'est une montée d'agressivité permanente.
Clairement liée au manque d'effectifs. Nous sommes aujourd'hui 120 dans le service. Il faudrait au moins 20 personnes de plus, affirme Bleuhen, sa collègue.
On n'est jamais assez de soignants pour le nombre de patients qu'on prend en charge. Ça peut monter à 2, 3 heures, 4 heures avant de voir un médecin. Les gens sont confinés dans une salle d'attente où il y a parfois des odeurs nauséabondes, du monde, des gens qui n'ont même plus la place de s'asseoir. Et donc forcément, ça fait monter. C'est une incompréhension pour eux. Alors on essaye au maximum de désamorcer quand il y a des situations où les gens s'énervent. Mais c'est parfois très compliqué.
Un climat très lourd. D'ailleurs, disent-elles, ça fait des années que la plupart des soignants des urgences de Saint-Antoine ne portent plus leur badge avec leur nom par peur d'être identifiés et agressés.
Pauline Jacquot pour Europe 1. Le personnel ne compte pas s'arrêter là. Une assemblée générale se tient aujourd'hui à Paris pour accentuer la pression sur les autorités sanitaires.
Les Gilets jaunes, quant à eux, lancent aujourd'hui leur 28e samedi d'action.
Après plusieurs samedis où l'affluence avait baissé, ils tentent de se remobiliser. Des appels à manifester à Paris sont lancés. Des manifestants ont aussi prévu de se rendre à Amiens, la ville du président de la République.
On prend maintenant la direction de la Croisette. La Croisette où s'achève ce soir le 72e Festival de Cannes.
Après 12 jours de compétition, le jury présidé par Iñárritu se réunit ce matin et sera confiné toute la journée dans une villa bien cachée, sans téléphone portable pour éviter les fuites. Le jury ne réapparaîtra que ce soir au moment de livrer le palmarès. Alors qui va remporter la palme et les autres prix? Mathieu Charrier se lance dans les pronostics.
Pour le moment, c'est un festival sans fausse note. Reste à voir si le palmarès sera à la hauteur des attentes des festivaliers. Car il y a eu cette année beaucoup de très bons films. Le grand favori, c'est celui du coréen Bong Joon-ho, Parasite, sorte de thriller métaphorique sur les laissés pour compte de la société qui ressortent de leurs égouts. Autre prétendant à la palme, autant pour son film que pour sa carrière, c'est Pedro Almodovar et son long métrage auto-fictionnel, comme il dit, Douleur et gloire. Sixième tentative en compétition pour l'Espagnol, c'est cette année ou jamais. Du côté des prix d'interprétation, Brad Pitt et DiCaprio pourrait être récompensé pour le film de Quentin Tarantino, tout comme l'acteur de Terrence Malick ou de Marco Bellocchio, qui joue un homme qui trahit la mafia sicilienne. Chez les femmes, ça devrait se jouer entre des Françaises, Adèle Haenel pour le portrait de la jeune fille en feu, ou Virginie Efira, impeccable dans Sibylle de Justine Trier, présentée hier soir. On peut aussi citer Les Misérables de Ladj Ly, qui a électrisé la Croisette en début de festival, ou le nouveau film de Ken Loach sur l'ubérisation de la société. Bref, la compétition est ouverte, d'autant que c'est un jury de spécialistes cette année. 7 des 9 jurés sont des réalisateurs ou réalisatrices, avec chacun des univers très marqués. Autant dire qu'il ne va pas être facile pour Iñárritu, le président, de mettre tout le monde d'accord. Au Festival de Cannes, Mathieu Charrier, Europe 1.
La boule de cristal de Mathieu Charrier qui interviendra à l'antenne à partir de 19h, bien sûr, sur Europe 1. Pour nous rendre compte de ce palmarès.
Et l'ex-Nawab Harvey Weinstein lui a trouvé un accord de principe avec plusieurs femmes moyennant le paiement de millions de dollars. Le producteur à l'origine du vaste mouvement MeToo est prêt à débourser 44 millions. Le procès au pénal y aura bien lieu, ce sera en septembre.
Il est 8h12 sur Europe 1 et le sport c'est maintenant avec Yannick Monnier.
C'est maintenant et c'est tout d'abord avec le clap de fin pour la saison de football en Ligue 1.
En haut du classement, rien à signaler, mais c'est bien Caen qui rejoint Guingamp en Ligue 2, alors que Dijon peut se maintenir. On dresse le bilan de cette toute dernière journée avec Cyril de la Morinerie.
Dijon a réalisé l'exploit de la soirée. 19e avant le début des matchs, les Bourguignons ont réussi à s'imposer contre Toulouse 2-1. Un succès qui leur permet de grimper à la 18e place et de disputer les barrages contre Lens. Le malheureux, c'est Caen qui termine du coup 19e, relégué après sa défaite contre Bordeaux 1-0. Caen accompagnera en effet Guingamp en Ligue 2. Guingamp battu à Amiens 2-1. Les Picards 17e sont donc sauvés et évolueront pour la 3e saison de suite en Ligue 1. Tandis que Monaco, battu à Nice 2-0, est maintenu, mais finit très éprouvé cette saison. L'autre événement de cette 38e journée, c'est la nouvelle défaite du PSG, battu 3-1 en Champagne par le Stade de Reims. Défaite de Lille, le deuxième, battu à Rennes 3-1. Lyon s'impose 3-2 face à Nîmes. Saint-Étienne décroche le nul 1-1 à Angers. Marseille bat et passe devant Montpellier, victoire 1-0. L'OM termine 5e de Ligue 1. Soirée ternie par le carton rouge adressé à Mario Balotelli. À noter enfin le succès de Strasbourg à Nantes 1-0.
Cyril de la Morinerie pour Europe 1.
Roland Garros, ça commence demain. Avec cette question, bien sûr, à la clé, qui pourrait succéder à Rafael Nadal?
Eh bien, peut-être l'Espagnol lui-même. Bah, il vient chercher à Paris un 12e titre, mais il n'est pas le seul à convoiter le trophée. Novak Djokovic est déterminé, tout comme Roger Federer, de retour après 3 ans d'absence, et qui n'est pas là en touriste, comme nous l'explique Thierry Champion, responsable du haut niveau à la Fédération de Française.
Federer, il a fait... Il a pris sa confiance à Rome, il a eu 2 matchs difficiles, il les a, physiquement il les a tenus, il n'a pas joué derrière, il est ici, donc ça veut dire qu'il est rentré en forme et qu'il nourrit de grosses ambitions. Maintenant, il faudra voir comment le tableau va s'ouvrir pour lui, mais il sera forcément très dur à battre. C'est derrière Nadal, parce qu'il y avait Nadal, mais on oublie que c'est un des tout meilleurs aussi sur terre battue.
Thierry Champion, au micro Europe 1 de Christophe Lamar.
Et Roger Federer, je vous le rappelle, sera l'invité exceptionnel d'Europe 1. Demain matin à 8h15. Merci beaucoup Lénaïque Monnier pour ce journal.